Vous savez que notre retraite a pour terme le chemin. Tout chemin est orienté vers un but. Et nous, nous n'avons pas d'autre but que de nous approcher de plus en plus du Seigneur, de vivre de son amour, de nous unir à lui dans la prière et les œuvres de charité. Jésus est le Fils de Dieu que nous reconnaissons comme venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous redonner notre gloire perdue par le péché d'origine. Il est venu en prenant la condition humaine, en tout sauf le péché. Il nous a parlé de façon humaine, de sorte que Dieu nous est devenu familier. Il nous a donné des mots pour prier le Père. Et il nous a demandé d'écouter ses enseignements en rappelant qu'il avait dit la même chose à son peuple Israël du temps où il n'était pas encore dans la chair. Nous allons donc méditer divers aspects de ce chemin, en commençant par dire que c'est lui et lui seul qui est notre chemin. Ce chemin n'est pas étroit, tout au contraire. Il ressemble à un vaste espace dans lequel se dessinent d'autres chemins. Mais dans cet espace, au cœur de cet espace, est une ligne droite qui mène directement au Père. C'est le chemin de l'Église. Le Seigneur l'a voulu comme colonne de vérité, selon un mot de la parole et reprise par un théologien, Berdyaev. Certains chemins finissent par rencontrer un jour cette ligne droite. D'autres lui resteront parallèles. En fait, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. C'est lui-même qui nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est donc cette parole de Jésus que nous allons méditer, reprendre ensemble pendant cette retraite. Une parole qui résume tout ce que le Seigneur est en lui-même et pour nous. Une parole qui répond à tout ce que nous cherchons, qui nous dit où se trouve le chemin, où nous serons sûrs de marcher dans la vérité. Et un chemin qui mènera à la vie sans fin. Eh bien, c'est vraiment la réponse à tout ce que nous désirons. Ce pourquoi nous existons, ce qui peut combler les besoins de notre cœur de connaître et d'aimer. Et c'est une révélation car ce chemin déporte n'importe quel chemin. C'est son chemin à lui qui est le Fils de Dieu, l'unique. Saint Pierre disait, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. C'est donc un chemin sacré, le chemin de Jésus, Fils de Dieu. Et en même temps, un chemin si large, si vaste, que chaque personne peut y cheminer son propre chemin de vie. C'est un chemin que le Fils béni nous offre de prendre pour aller avec lui, et en lui et par lui, et de nous en aller vers le Père. Et déjà nous pouvons comprendre que parce que c'est le chemin du Fils de Dieu, c'est le chemin où toute l'humanité chemine. Donc un chemin qui porte autant d'histoires qu'il y a de femmes et d'enfants, d'hommes, de femmes et d'enfants. Notre chemin personnel est l'un de ces chemins. Il nous a été donné par grâce et nous le recevons avec gratitude. Le Seigneur nous a proposé de le vivre intimement avec lui, tout en continuant notre vie dans la cité des hommes, au service de la vie, en constituant des familles, en œuvrant dans les divers secteurs d'activité de l'activité humaine. Notre chemin se caractérise essentiellement par une recherche de correspondre au don que Dieu nous fait, de vivre dans son union intime, en lui réservant l'offrande de notre amour. Bien sûr, ce n'est pas une diminution égoïste de l'amour qui oublierait les eaux de la terre, le monde des anges, le monde des saints, tout au contraire. C'est un amour semblable à celui de Jésus, un amour qui porte en lui un aspect de sacrifice pour le bien des autres, pour leur accès à la même vie éternelle. C'est donc un chemin de pur amour. Nous poursuivons l'accomplissement de nos vies comme un jardinier qui sème d'abord la graine, puis qui voit les premières pousses, sa floraison, son abondance, jusqu'à donner 100 pour un, et qui finalement engrange le blé dans son grenier. Ce jardinier, c'est le Seigneur. Le jardin, c'est notre âme. La floraison, c'est l'épanouissement des vertus qui permettent de vivre une vie sainte de connaissance de Dieu, d'obéissance à sa sainte volonté. Le temps nous est donné pour lier les gerbes, pour mieux comprendre l'amour du Seigneur envers soi, pour entrer dans la connaissance de la vie intérieure, comme nous l'ont présenté les saints et les saintes de notre Église, ceux du Carmel, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Marie de Jésus crucifié, mais aussi les saints et saintes que nous aimons particulièrement, qui nous enseignent et nous protègent, Sainte Bernadette, Saint François et Sainte Claire, et puis aussi ce grand Saint Paul, car son enseignement est un monument unique, aussi bien du côté de la vie apostolique que du côté de la vie mystique. Et de plus, sa personnalité humaine est un foyer d'énergie, d'amitié, de tendresse, de violence, d'humilité, de reconnaissance des dons extraordinaires que le Seigneur lui a faits. On n'a jamais fini d'apprendre avec lui et d'approfondir le mystère. Aux Éphésiens, il ne peut se retenir de dire, à me lire, vous voyez combien vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Et c'est bien vrai. Nous ne lassons jamais de relire ses écrits, de déchiffrer le mystère, de voir le missionnaire à l'œuvre, ayant pour les Églises un souci permanent. Alors, après avoir essayé de donner quelques notes sur ce chemin, ce mystère du chemin qu'est Christ Jésus lui-même dans nos vies. Voyons maintenant comment marcher pour nous, aujourd'hui, sur le chemin que Jésus a pris. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons simplement regarder ce qu'est le chemin de Jésus. Ce chemin, c'est un chemin humain, comme nous, comme le nôtre. D'abord un chemin d'enfance. Il a appris comme tout enfant. Il a reçu de sa mère des détails sur sa vie, parce qu'elle-même avait gardé dans son cœur tout ce qu'elle avait vécu. Elle n'avait pas cessé de le repasser pour s'en étonner et pour en rendre grâce. Jésus, bien qu'il fût le Verbe du Père, dut, en prenant la condition qui est la nôtre, passer par tout ce qui fait une vie humaine. D'abord son ignorance, des premiers jours de son existence. Après que l'ange eut annoncé à Marie, sa mère, sa conception unique de Fils de Dieu entrant dans la chair, c'est-à-dire dans notre condition humaine, il apprit de sa mère que sa mère elle-même avait fait un long chemin juste après sa conception pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Il apprit qu'elle avait dû souffrir du voyage de Nazareth à Bethléem pour le recensement imposé, alors que le terme de l'enfantement allait arriver, était imminent. Il apprit que des mages d'allure impressionnante vinrent visiter sa mère et son père Joseph dans leur humble logis et déposer au pied de l'enfant des présents symboliques qui annonçaient le destin unique de cet enfant. Lors de sa condition divine, l'enceinte de sa royauté, la mire annonciatrice de sa passion. Il apprit qu'à sa venue, l'hostilité du roi Hérode fut terrible et qu'il échappa au massacre des innocents parce qu'un ange vint prévenir Joseph de partir très vite en Égypte. Et là, le Père, son unique Père céleste, lui fit prendre le chemin des adieux. Le chemin des aïeux. Celui de Jacob pour retrouver son fils bien-aimé Joseph et rester 40 ans en Égypte avant de sortir du pays pour l'aventure la plus extraordinaire de libération, signe de toutes les autres sorties de toutes nos libérations humaines. Et puis il suit lui-même ce que fut sa vie, une vie pauvre, humble, d'abord d'écolier juif, d'adolescent et de travailleur, sous la direction du charpentier Joseph. 36 ans de vie silencieuse, d'un Dieu incognito au milieu des hommes qu'il a créés, 36 ans d'oubli volontaire de sa gloire absolue de Fils éternel qui a tout fait ce qui existe, 36 ans de prière, d'un Fils qui se savait le Fils unique du Père, c'est-à-dire le seul Fils éternel que le Père engendre éternellement. Prière très humble, comme celle de nous tous en présence de l'infini mystère du Père. Prière d'un Fils, le seul enfant capable de nommer le Père en l'appelant Papa. Chose que personne n'aurait eu l'audace de dire. Et puis, l'heure du charpentier, laissant ses outils, quittant son lieu et commençant une autre aventure, un nouveau chemin. Ce chemin qui devait se terminer par la croix et qui reste encore un chemin humain, car combien d'hommes et de femmes ont perdu leur vie parce que le monde des puissants ne put supporter leur combat de vérité. Combien de martyrs pour avoir commis le crime de revendiquer la liberté de conscience. Combien de condamnés à mort dans des prisons infâmes sous le regard de celui qui les jugera au dernier jour. Le chemin de Jésus, c'est notre chemin. Tout ce que le chemin de Jésus, tout ce qu'il a vécu humainement, nous aussi, nous avons à le vivre. chacun d'une certaine façon dans son propre chemin. Bien que celui du Fils soit incomparable, parce qu'il intègre en lui tous les chemins, parce que chacun peut y trouver le sien. Mon chemin, bien sûr, mon chemin à moi, bien sûr, est différent. Et pourtant, ma vie s'enracine dans la sienne. Cela, je ne l'ai peut-être pas compris tout de suite, seulement peut-être qu'après de longues années. Peut-être même suis-je en train d'essayer de comprendre comment mon chemin, en fait, se trace dans son chemin. N'est-ce pas toute l'histoire de nos vies, de réaliser que notre chemin ne parcourt pas seulement l'actualité de cette terre, mais qu'il se trace dans une autre terre, de mystère qu'il nous faut accueillir, que nous devons reconnaître, apprendre à discerner. Dans l'histoire de nos vies se greffe une autre histoire, celle de l'enfant de Bethléem, celle du Fils venu sceller dans son sang ce chemin sur le calvaire. Il est très important d'affirmer que le chemin de Jésus est un chemin humain, parce que pour beaucoup, la religion est une évasion dont le rêve est une évasion pour nous faire oublier les difficultés de la vie. Et en même temps, nous affirmons que ce chemin qui ressemble à tous les chemins humains a quelque chose d'unique. Dans un premier temps, l'Église n'a pas eu à affirmer l'humanité de Jésus, puisque Jésus a vécu, a marché sur les routes, a enseigné partout. La question s'est posée plus tard, de savoir si étant homme, il était vraiment aussi Dieu. L'Église a affirmé ce mystère, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pour qu'à notre tour, sur ce même chemin, nous arrivions à cette conclusion. Ainsi, nous marchons avec Jésus sur un chemin qui nous révèle ce que nous sommes en vérité. Des hommes créés par Dieu à son image et ressemblance, ayant une vie humaine qui n'est pas que terrestre, qui a une vocation d'éternité. Et c'est pourquoi marcher sur les pas de Jésus, c'est d'accomplir une vocation humaine d'un être créé par Dieu pour vivre en enfant de Dieu. La souffrance et la mort que Jésus a vécue fait partie de tout chemin humain. Si quelqu'un ne vit pas sur le chemin de Jésus, il ne peut pas comprendre pourquoi le drame de la mort est entré dans son existence. Si au contraire il prend le chemin de Jésus, il endosse avec lui l'épreuve de la foi, de la croix, et il reçoit de comprendre que cette vie a du sens. Elle est une participation au salut pour la vie du monde. Tel est le sens du chemin de Jésus venu pour le salut des hommes. Rien de notre propre chemin est donc insignifiant. Le chemin de notre vie est uni comme celui du Fils éternel qui l'est aussi. Dès notre origine, nous sommes fils de Dieu. Et Jean nous dit que nous ne sommes pas nés du vouloir de la chair, mais même quand la tendresse pouvait l'animer, mais que c'est de Dieu et de Dieu seul que nous avons reçu notre existence. Par notre baptême, nous sommes confirmés dans cette identité de fils de Dieu. Et nous entrons dans la vie du Seigneur, et cette entrée est une nouvelle naissance. C'est le sens véritable de notre baptême qui nous fait naître à la vie éternelle que nous n'avons pas pu comprendre quand nous l'avons reçu dans les premiers jours de notre vie terrestre. Eh bien, ce chemin est fondamentalement un émerveillement durable. Et peut-être que cette nouvelle retraite pourrait nous faire remonter cette action de grâce devant tous les bienfaits dont le Seigneur comble nos vies. Une reconnaissance qui crée l'émerveillement. devant tant de dons gratuits de son amour. C'est merveilleux. N'est-ce pas dire à notre Père combien notre cœur voudrait chanter son amour, combien notre joie est infinie de nous sentir en vie, de comprendre que nous sommes nés du Créateur. Émerveillement. Quand ce sentiment est-il né un jour dans notre cœur? Certainement le jour où nous avons pris conscience que nous étions nés de Dieu et non pas d'un désir de la chair, d'un simple vouloir d'homme, comme le dit saint Jean. Certainement ce fut ce premier grand jour de notre vie spirituelle. Il aurait fallu tout le chemin d'une vie pour que nous en prenions lentement conscience et que l'émerveillement grandisse à chaque pas d'enfouissement dans l'amour et dans la lumière. Eh bien aujourd'hui, il est dans chacun de nos cœurs ce chant d'émerveillement comme un chant de coquelicot rougi du sang de l'agneau dont nos vies se sont nourries. Il chante en nous le bonheur et le désir de voir Dieu. Mon âme languit vers toi. Ma chair brûle du désir de t'étreindre. Je te sais devant et derrière. Et quand ma pensée baigne en toi, c'est toi qui lui donne d'être. Quand je suis loin, tu restes toujours le plus près. Oui, tu es comme un feu allumé en tout lieu, d'où sort ton nom imprononçable. Moïse se couvrit le visage étonné d'être encore en vie en percevant le son de ta voix. Émerveillement, émerveillement d'espérer voir toutes tes merveilles, Seigneur, dans ton royaume, d'en ressentir une joie que rien ne pourra effacer. Oui, mon âme pleure de joie, parce que je perçois, même confusément, ta beauté partout dans ton univers, parce que mon cœur devine ton nom, Seigneur, caché dans les choses et partout présent. Je le murmure en disant le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Quand ma prière s'arrête, tu es là, toujours devant moi, et tu m'invites à toujours entrer dans la fête des noces de l'agneau, à revêtir l'habit de lumière, moi qui ne suis qu'un pauvre cendrillon. Oui, il faut toute une vie pour que germe et progresse sous le vent de la grâce l'émerveillement que, heureusement, la vieillesse récolte comme un fruit mûr. Émerveillement. Émerveillement, n'est-ce pas encore le nom même du Fils, donné par le Père, que le Saint-Esprit a pour mission de révéler au plus profond de notre être, pour nous donner le goût du chemin qui mène à la lumière sans déclin. Émerveillement, émerveillement comme un chant multiforme que toute chose née des mains du Créateur ne cesse de chanter. Un chant qui chante la gloire de ce Dieu aux œuvres de beauté, d'infinie intelligence et de puissance. Émerveillement de toutes ces petites voix humbles, du simple caillou jusqu'à la montagne assis sur ses bases et qui semble défier la corrosion du temps, de ces bestioles au nom inconnu, si minuscules et pourtant si fortes de vie, et qui vont inlassablement on ne sait où. Je ressens cette harmonie que crée la vie en son infinie complexité. Faiblesse, fragilité qui rime avec puissance et splendeur des galaxies. Tout me dit, Seigneur, ta présence sacrée. Tout renouvelle ta présence au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, est-ce le paradis sur la terre? Si par paradis il faut entendre la permanence du bonheur, la réponse immédiate est non. Non, ce n'est pas le paradis sur la terre, puisqu'en fait tout change. Tout évolue, tout disparaît, tout meurt en ce monde, que ce soit les plantes, les animaux et même les hommes. L'univers lui-même devrait un jour disparaître. Saint Pierre, dans la deuxième épître, parle de l'avènement du jour de Dieu, où les cieux se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Et il ajoute, ce sont des cieux nouveaux, une terre nouvelle que nous attendons, selon la promesse où la justice habitera. Et notre réponse sera encore, non, ce n'est pas le paradis. Si paradis, on entend un bonheur durable et acquis en tout homme, car l'actualité nous montre tout le contraire. Cette terre est en fait le Golgotha, où ne cessent de mourir les pauvres, les exclus, les plus démunis, de tout jusqu'à leur honneur inadmissible d'être des personnes humaines. Golgotha, où monte le cri des persécutés à cause de l'indifférence des autres, la misère à cause de l'orgueil des riches qui accaparent eux-mêmes les biens qui n'appartiennent qu'à toi, Seigneur. Golgotha, où Jésus ne cesse de crier vers toi pour ses frères. Devant tant de souffrances, notre prière pourrait nous paraître impuissante si nous venions à oublier que tu es le Dieu qui mourut un jour sur ce Golgotha en transformant ce lieu d'enfer en royaume de vie éternelle par ta résurrection. Alors, comment peut-on à la fois affirmer l'émerveillement en écoutant le cri immense du monde et le gémissement des hommes et de la création? Frères et sœurs, nous savons combien notre foi est à l'épreuve en ce monde, mais elle résiste à tout désespoir. Elle est l'ancre enfoncée, non pas dans une mer mouvante, mais dans le cœur du Fils de Dieu, qui prit un jour notre nature humaine de pauvreté et d'abandon entre les mains de son Père. Ce paradoxe de la mort, qui n'a plus de prise sur la vie du ressuscité d'entre les morts, c'est la foi du fidèle. Dans la vie, jusque dans la mort, eh bien, c'est ce qui fait vraiment la vraie nature de l'émerveillement. Notre foi, insolite par ce paradoxe, pour la plupart des hommes, est fondée dans la conscience que ce monde actuel n'est pas un tout éternel, sans changement, ignoré du Créateur, mais tout au contraire. Un monde que Dieu ne cesse de bénir. Un Dieu certes mystérieux, même étrange, puisque capable de pleurer avec des frères qui pleurent, de s'émerveiller, de voir ses enfants lui donner son vrai nom, amour. Un Dieu fidèle qui réalisera les promesses qu'il a faites, et nous le verrons le jour où se déchireront les cieux pour faire apparaître le royaume de la justice et de la paix, au jour de la récompense de tous ceux qui auront cru jusqu'à l'extrême à la venue de cette heure. Le malin est un menteur qui veut nous faire croire le contraire de l'amour, en semant partout la haine. Son univers est blafard, mortuaire. Il essaie de ratisser jusque dans la plantation du Seigneur. Alors soyons fermes, ne nous laissons pas décourager par les voix qui contredisent un Dieu d'amour, un Dieu qui travaille toujours au bonheur des hommes qu'il a créés par amour. Mon Père travaille toujours, et moi aussi, je travaille, disait Jésus. Ce travail a été déposé entre les mains de l'Église. Heureuse est-elle en le faisant, ce travail. Mais malheur à elle si elle se détourne vers d'autres citernes percées. L'émerveillement renaîtra toujours de la foi vive de l'amour. Dieu est nouveauté, qui prend corps sur l'ancien et le transforme à travers les changements, nous aurons toujours à discerner ce qui est, ce qui demeure, l'éternité de l'amour miséricordieux du Créateur. Notre retraite a donc pour but de raviver en nous la force de la foi de l'amour. Nous aurons 3 jours de rencontre pour le faire. Que la joie de faire ces rencontres emplisse dès maintenant nos cœurs et que le Seigneur, qui en est le chemin, nous bénisse chacun, chacune. Amen.